Nous lisons dans 1 Corinthiens 1, 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 18. 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Je recommence 1 Corinthiens 1, 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Donc notre frère Paul nous dit, la prédication de la croix, donc du sacrifice de Jésus, c'est ça la croix, est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et je rendrai nulle l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le raisonneur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs, car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Conséquence, il n'y a que les petits qui peuvent être sauvés. Devant une telle prédication, il n'y a que les enfants, les petits qui peuvent comprendre et se laisser sauver, parce que la sagesse du monde ne peut pas comprendre ça. Donc le but, c'est aussi montrer que la sagesse de l'homme ne peut pas accéder à Dieu. Dieu lui-même se révèle aux humains. Comment il s'est révélé? Par la prédication du sacrifice de Jésus, de la croix. Le frère dit au verset 23, « Nous, nous prêchons Christ crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les païens. » Pourquoi scandale pour les Juifs? Parce qu'il y a un verset dans l'Ancien Testament qui dit « Maudit quiconque est pendu au bois. » On voit bien que lorsque Jésus faisait des miracles, il prêchait, il y a quand même une grande quantité de Juifs qui avaient cru. Il y avait des gens, beaucoup qui avaient sympathisé. Ce qui a gêné vraiment les Juifs par la suite, c'est le fait que Jésus soit crucifié. Ça, ça les a embêtés parce que ça allait dans le sens du verset qui dit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Donc pour eux, ils se sont dit « Mais non, mais on peut bien comprendre que le Messie souffre un peu, mais pas jusqu'à aller être crucifié, parce qu'il est sous la malédiction en étant crucifié. » Et pour eux, c'était un scandale. Comment on peut dire que le Messie soit crucifié? Donc c'est ce que Paul explique là. Il dit « Scandale pour les Juifs ». Ce n'était pas normal. Donc, mais ce n'était pas normal pour l'homme, mais il fallait être humble pour être attentif à la voix de Dieu. C'est pourquoi on a chanté « J'entends ta douce voix ». Le Seigneur parle dans la douceur, mais il faut être humble et attentif. Sinon, on ne va pas entendre sa voix. Et là, ils n'avaient pas entendu la voix du Seigneur parce que le Fils de Dieu a été crucifié à la croix. Et il dit au verset 23 toujours, « Et folie pour les païens. » C'est une folie pour les non-juifs de considérer qu'un sauveur puisse l'être par son sacrifice à la croix. Parce que dans le milieu des non-juifs, dans le milieu des humains tout simplement, les sauveurs sont souvent des gens qui sont costauds, forts, très intelligents et qui viennent détruire l'ennemi visiblement, qui assoit une autorité par la puissance et la force. Ça se fera un jour, mais il fallait une première étape, l'étape du sacrifice, se donner pour récupérer l'homme. Et ça, donc, les non-juifs, les humains tout simplement, ont du mal à comprendre qu'un sauveur puisse venir sauver par son sacrifice à la croix. Mais c'est ça la vérité de l'évangile. Alors, moi, je veux nous poser la question suivante. Quel est l'autre salut qui nous a été proposé qui soit aussi simple et clair? Il n'y en a pas. Le salut, ça pourrait être quoi? La médecine. Vous êtes témoin du nombre de maladies incurables qui existent. Il y a même des maladies qu'on appelle orphelines. La médecine n'a pas su résoudre ce problème. Aujourd'hui, on parle d'Ebola. Hier, c'était la grippe aviaire et autre chose. Il y a plusieurs maladies qui ne sont pas guéries par la médecine. Et encore, même si ça guérissait beaucoup de maladies, mais ça ne guérit pas de la mort. Les hommes meurent quand même. Ça prouve que tout humain est en quelque sorte malade d'une maladie qui l'amène à vieillir et puis à mourir. C'est cette maladie que la Bible appelle le péché. Le mal en lui, ça va finir par le faire vieillir, détruire et finalement mourir. Et ça, la médecine ne guérit pas de cette maladie, parce que à quoi ça sert de se faire guérir pour mourir encore toujours un jour? Donc le vrai problème, c'est la mort. La maladie n'est qu'un agent de la mort, mais le vrai problème, c'est la mort. On peut mourir en bonne santé, mais on meurt quand même. Voilà. Le vrai problème, c'est la mort. Et la médecine n'a pas résolu ce problème, ni la politique. Voilà, on voit comment les politiciens sont élus, après rejetés par ceux qui les ont élus, parce qu'ils ont échoué à mettre en pratique le programme qu'eux-mêmes ils ont énoncé. Ni l'économie. Il y a dans un pays de l'Amérique du Sud, le président a même mis comme ministre de l'économie un étranger. On a dit, bon, Milton Friedman, tu as le prix Nobel d'économie, viens être ministre de l'économie chez nous. Mais Milton Friedman a échoué à rétablir l'économie de ce pays-là. Donc l'économie a échoué parce qu'on voit toujours des pauvres, des sans-abri, des gens qui n'ont rien à manger. On voit toutes sortes de moyens de secours pour aider les gens que l'État, par son économie, n'a pas réussi à satisfaire. Quelle solution nous propose pour régler notre vrai problème qui est le problème du péché et de la mort? C'est ça notre vrai problème, nous les humains. On vieillit et on meurt. Et encore, ça c'est le grand problème. Mais il y a d'autres petits problèmes, les guerres, les divisions, les cambriolages, les jalousies. Il y a plein d'autres petits problèmes. Qui est-ce qui nous propose la vraie solution devant tout cela? Personne. Même pas l'argent, parce que nous voyons des gens riches se suicider. Nous voyons des gens riches prendre la cocaïne pour être heureux. Même pas le libertinage. On voit des gens dans le libertinage se suicider encore quand même. Il n'y a aucune proposition valable qui résout le problème de l'homme. Alors, celui qui a créé l'homme lui-même a trouvé la solution. Et sa solution, c'est de tuer, de détruire par la mort de Jésus à la croix ce qui existe. C'est ainsi qu'un verset, parce que je ne veux pas parler de choses très compliquées, mais restez dans la simplicité. C'est ainsi que lorsque Jésus a été crucifié à la croix, il a amené à la mort tout ce qui existe. Donc, puisqu'il est Dieu, il pouvait en lui contenir tout ce qui existe. Donc, le Seigneur, notre Père, a crucifié en même temps l'humanité tout entière, l'univers tout entier a été crucifié à la croix pour produire une résurrection qui soit agréable à Dieu, qui ne subisse plus la mort, qui ne subissent plus les souffrances. Parce que c'est ça notre problème, c'est la mort, les souffrances, les contrariétés, les difficultés. Alors, la solution pouvait une solution simple, ça pouvait être juste la destruction et créer autre chose. Mais Dieu, il est écrit dans Jean 3, 16, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le problème de Dieu, c'était l'amour. Comment peut-il détruire tout simplement ce que lui, il aime? Il n'a pas pu. Il a fallu trouver une autre solution. La solution, c'était la résurrection par la mort. D'abord qui est mort, ensuite qui est résurrection. C'est ce qui a été accompli à la croix par Jésus. C'est ça l'explication simple. Pourquoi Jésus est mort? Pourquoi il a été crucifié? Il fallait que l'univers entier soit mort avec lui pour ressusciter en nouveauté de vie. Et Jésus nous donne l'explication de tout ça dans Jean 12, 24. Il dit, le grain de blé ne produit pas un arbre s'il ne meurt. Il nous donne ça, nous lisons dans Jean 12, 24, puisqu'on va revenir encore à 1 Corinthiens. Nous gardons la page d'1 Corinthiens, Jean 12, 24. Jésus nous dit ceci, à partir du verset 23. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Glorifié pour Jésus, c'est être crucifié. Ben, on va comprendre pourquoi, parce que c'est comme ça qu'il gagne. Donc l'heure est venue pour que le Fils de l'homme soit glorifié. Verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Voilà. Et il continue en disant, celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui est sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Alors il dit, en vérité, si le grain de blé ne meurt, il reste seul. Effectivement, prenez un grain de riz ou un grain de blé, posez sur votre table. Il va rester brillant, beau, mais il reste seul. Il ne produit rien. Mais si vous plantez, vous semez ça dans la terre, à un moment, il va pourrir et puis mourir. Et c'est en mourant ainsi qu'il peut produire une plante. Voilà ça qui a été la solution de Dieu. Crucifier l'univers, mais en le faisant entrer dans son Fils, ainsi, en ressuscitant, son Fils ressuscite avec tout l'univers. Mais chaque chose a son étape. C'est comme quand le grain de blé ressuscite. Il n'y a pas encore du blé quand il ressuscite. Il y a d'abord la plante. Et chaque chose en son temps. Et quand Jésus est ressuscité, la Bible dit, je ne veux pas citer trop de versets, la Bible dit que Jésus est le premier-né d'entre les morts. C'est les prémices, donc c'est la première étape. Donc, Jésus est la première étape. Donc c'est quand le grain de blé ressuscite, il y a d'abord une pousse, une jeune pousse, une petite plante qui vient. C'est la première étape. Et cette première étape, c'est Jésus lui-même. Ensuite, il y a d'autres étapes. Il y aura la résurrection des morts pour le jugement. Ensuite, il y aura la résurrection de tout l'univers. Hein, c'est ainsi que le livre, la Bible, finit par ce verset. Il y eut une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Car l'ancienne terre et l'ancien ciel ont été détruits. Donc, finalement, après la résurrection des humains, il y aura la résurrection de l'univers. Mais tout ça par étapes. La première étape, c'est la résurrection de Jésus lui-même. Qu'il peut nous certifier qu'un jour, nous aussi, on ressuscitera vainqueur de la mort. Et ensuite, l'univers aussi ressuscitera vainqueur de la mort. C'est ça, la solution de Dieu. Il fallait semer l'univers qui était pris par le péché. Et en le tuant, en le crucifiant, en le faisant mourir, il permettait ainsi la résurrection. C'est ainsi que j'ai l'habitude de dire que la résurrection est le plus grand miracle. C'est la résurrection, c'est le plus grand miracle. Donc un miracle, c'est un fait surnaturel qu'on ne retrouve pas par l'intelligence humaine, par la logique humaine, on ne peut pas produire. C'est ça le miracle. Lorsque quelqu'un, on lui dit, il te reste un mois à vivre par la médecine, par la programmation médicale, et que finalement cette personne vit 50 ans de plus, ça c'est un miracle. Lorsque, comme dans l'histoire de Jonas, un arbre sort en un instant, sort de la terre et grandit pour faire ombrage à Jonas, c'est un miracle parce que ce n'est pas le processus normal humain ou de l'univers de la construction d'un arbre. Et le miracle le plus grand, c'est la résurrection. Plus grand même que la création, parce que la création, c'est déjà grand, parce que tu crées du vide, quelque chose qui n'existe pas. Mais le miracle, la résurrection, c'est encore plus grand parce que tu transformes ce qui est pourri, tu le rends bon. Ça, c'est encore plus dur. Un exemple simple, nous tous, on peut faire un nouveau plat, on peut faire un nouveau gâteau. Il n'existait pas, mais tu le crées dans ta tête et tu le mets en action, tu produis un nouveau gâteau. Mais est-ce que tu es capable de transformer un gâteau pourri en gâteau mangeable? Impossible. Eh bien, Dieu a été capable de transformer ce qui était pourri en quelque chose de bon. Comment? Par la résurrection. En laissant les choses mourir pour les ressusciter. C'est ça l'œuvre de Jésus à la croix. Scandale pour les Juifs parce qu'ils ne comprenaient pas comment il peut être crucifié. Mais oui, il fallait qu'il soit crucifié parce qu'il a pris notre place. Il fallait qu'il soit maudit parce qu'il a pris la place de tous les pécheurs de l'humanité. Donc il a été maudit. Mais non, pourquoi c'est difficile pour un Juif de comprendre ça? Mais parce que dans la tête de la personne, il se dit, mais non, chacun doit payer pour ses propres péchés. C'est ça la logique de la justice. La justice veut que ce que tu as fait, tu payes pour ce que tu as fait. Maintenant, le miracle de Dieu, c'est qu'il fait payer quelqu'un d'autre à ta place. C'est ça le miracle de son amour. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça le but du sacrifice. Le sacrifice, c'est l'amour. C'est l'amour total. Et c'était difficile à faire comprendre à un juif, même à un non-juif, c'est une folie. Nous sommes habitués à ce que quelqu'un subisse ce qu'il a fait comme faute. Dans aucun pays, il y a des dispositions qui font subir à d'autres ce qu'a fait quelqu'un d'autre, sauf dans le cas des gens qui meurent et puis les enfants héritent des dettes. Mais c'est parce que la personne est morte. Mais là, la personne est là, mais quelqu'un d'autre subit à sa place. Il n'y a aucune disposition de ce genre-là. Et c'est ça qui a été difficile pour certaines personnes qui voulaient saisir Dieu par l'intelligence, de comprendre l'œuvre de la croix. C'est pourquoi c'est dit, c'est une folie pour les humains, c'est un scandale pour les Juifs. Mais c'est pourtant une puissance pour ceux qui croient. Pourquoi, bien-aimés? Parce qu'aujourd'hui, quand le diable veut t'empêcher d'agir, de faire quelque chose en disant « mais tu n'es pas parfait », mais toi tu vas lui dire « mais non, mais Christ a été crucifié pour moi ». C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse 12, 11, « nous avons vaincu à cause du sang de l'agneau ». C'est pourquoi le Seigneur lui-même dit « priez au nom de Jésus, priez à mon nom ». N'allez pas vous présenter devant les situations en disant « moi je suis un tel, moi je... » Non. Au nom de Jésus, je prends autorité sur la situation. Voilà pourquoi c'est dit. C'est une folie. Nous revenons dans 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 1, 23. Nous prêchons Christ crucifié. Nous prêchons le sacrifice de Jésus. C'est un scandale pour les Juifs. C'est une folie pour les païens qui sont habitués à gagner par la force, à gagner par l'intelligence, qui sont habitués à une justice où chacun paye pour ce qu'il a fait. Mais nous prêchons Jésus-Christ crucifié pour tous les humains. Donc tout le monde peut en bénéficier gratuitement. Ça aussi, ça gêne les gens qui aiment être les premiers, les gens qui aiment être les plus beaux, les plus forts. Ça les gêne d'entendre qu'il y a un salut qui soit gratuit. Et ils n'acceptent pas trop ça. Ça les gêne. Les gens qui sont durs, qui veulent l'efficacité, le résultat, produit les résultats, produit l'efficacité. Mais nous, on vient dire, mais non, il y a un autre système. C'est que tu meurs et ça produit le résultat. Ah, ils n'acceptent pas cela. Mais c'est ça, c'est pourquoi c'est écrit folie pour les humains. C'est une folie, mais c'est comme ça que Dieu a décidé que les choses se fassent afin que personne ne se glorifie. C'est ça le but. Parce que si c'était notre efficacité et notre production qui sauvait, on se glorifierait. Mais c'est un autre système qui produit la gloire. C'est lorsque quelqu'un souffre. C'est lorsqu'il y a sacrifice. Et c'est écrit au verset 24. Tiens, je perds toujours la page. Verset 24. C'est écrit, « Mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant juifs que grecs. » C'est une puissance de Dieu et sagesse de Dieu. C'est une puissance parce que la mort a permis la résurrection. Sans la mort, on ne parlerait pas de résurrection. Aujourd'hui, nous sommes conscients que une situation peut ressusciter, mais il faut d'abord accepter qu'elle meure. Il ne faut pas la laisser juste au point de maladie. Il faut l'amener jusqu'à mourir, la situation. Maintenant, comment l'amener jusqu'à mourir? Ben, on va en parler à la fin. On doit porter la situation et la donner au Seigneur. Et Seigneur, je te présente la chose pour laquelle Jésus-Christ a été crucifié. Je considère que toi seul es la solution. Ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes efforts. Toi seul es la solution. On doit être prêt à prier pour la chose. La prière est une forme de sacrifice. Et on verra la résurrection de la situation. Nous, nous prêchons Christ crucifié. C'est un scandale pour les Juifs. Mais aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de Juifs au milieu de nous. C'est beaucoup plus une folie pour les humains et qui ont leur système de valeurs qui n'apporte aucune solution à leurs problèmes. Mais le vrai système, c'est celui de Dieu, de la mort et de la résurrection, du sacrifice et de la puissance, sacrifice et de la gloire. Quand on prononce le mot sacrifice, puisque le sacrifice produit une certaine douleur à la chose qui est sacrifiée, on a gardé dans notre esprit l'idée de sacrifice, c'est la souffrance. Non, le sacrifice, ça peut produire la souffrance, mais le sacrifice était à l'origine une offrande, un cadeau qu'on faisait à Dieu. Tu prends ce qui est à toi, tu détruis ça en quelque sorte pour que Dieu prenne. Bien-aimé, quand on mange une pomme, tu manges une pomme pendant 10 minutes. Après, la pomme existe encore. Elle n'existe plus. Mais elle produit des vitamines chez toi. Elle produit la vie chez toi. Et c'est la même chose avec les sacrifices qu'on faisait à Dieu. Tu fais un cadeau à Dieu. Ce que tu fais comme animal, mouton, bœuf, n'existera plus puisqu'il est tué. Il y a une certaine douleur parce que tu perds ton agneau. Tu perds ton bélier, tu perds ton mouton. Mais ça disparaît pour produire la vie, pour produire l'exaucement de Dieu, pour produire la proximité de Dieu, pour produire la gloire de Dieu. Nous, nous prêchons cette logique-là, la logique de s'offrir. Quand on dit sacrifice, il ne faut pas voir forcément souffrance. Il faut plus retenir le côté offrande. Je m'offre. J'offre. C'est ça le sacrifice. J'offre mon intelligence. Vous savez, quand quelqu'un prie, il offre en quelque sorte son intelligence parce que la prière et l'intelligence ne vont pas ensemble. Puisque l'intelligence va te dire, mais Dieu connaît déjà la situation. Pourquoi il faut encore lui parler? L'intelligence va te dire, mais tu as parlé hier. Pourquoi il faut encore parler aujourd'hui? L'intelligence va te dire, mais les médecins sont là. Un tel est là. Il suffit de travailler, il suffit de... La prière et l'intelligence ne vont pas ensemble. Ce qui fait que quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un quelque part qui sacrifie son intelligence, qui accepte d'être comme un enfant et s'attendre au Dieu Tout-Puissant. Il y a une offrande dans la prière. Et c'est le sacrifice que Dieu nous a laissé à faire tous les jours. Nous continuons à lire au verset, au chapitre 2. D'ailleurs, on peut continuer, on continue verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Il ne dit pas qu'il n'y en a pas, mais il n'y en a pas beaucoup. Pourquoi? Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire en néant celles qui sont, afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Voilà ce que notre frère Paul dit. Regardez parmi vous, observez bien, il n'y a pas trop de nobles, pas trop de grands intellectuels, pas trop d'hommes forts selon le monde, sages selon le monde. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui fonctionnent selon un système des œuvres. Donc, ils doivent produire, être efficaces, faire ceci, être ordonnés, faire cela. Et ils comptent sur tout ce travail-là pour réussir les choses. Mais pourtant, devant eux, l'échec est là. Bien aimé, ça fait combien de siècles qu'on étudie l'économie? Ça fait combien de siècles que la science existe? Mais l'homme est toujours dans les guerres, l'homme est toujours dans la souffrance, les choses ne changent pas. Au contraire, ça s'empire, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on commence à voir à la télé, dans les ordinateurs, on voit des décapitations, quelque chose d'horrible, ça commence à être diffusé comme ça. Le monde périt davantage, alors que l'homme est davantage orgueilleux par sa science et par ses découvertes. Donc ça ne conduit à aucune solution. Les bruits de guerre sont encore là. On a loupé, il y a peu, une guerre mondiale à travers l'Ukraine. Donc malgré leur force d'intelligence, de sagesse, ils n'apportent aucune solution au problème de l'humanité. Qu'ils soient humbles pour écouter autre chose, ils ne le sont pas. Le vrai problème, c'est l'orgueil. C'est pourquoi Paul dit, regardez parmi vous, il n'y a pas trop de gens forts. C'est des gens faibles qui peuvent écouter la voix de Dieu. C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 5, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Des gens qui sont simples de nature. Simples, ils vont être attentifs à la voix de Dieu. Et il dit, Dieu a choisi les petits. Dieu a choisi le système du sacrifice. C'est-à-dire, en perdant, c'est là que tu gagnes. C'est comme ça que Dieu a fait les choses. Comme ça, les gens qui ont l'esprit de gagner soient confondus. Mais les gens qui ont l'amour, parce qu'on va revenir sur quoi, sur c'est quoi un sacrifice? Les gens qui ont l'amour, qui ont la foi, qui ont la simplicité, ce sont des gens qui réussissent. C'est comme ça que Dieu a choisi les choses. Et chapitre 2, verset 1er, toujours le même 1 Corinthiens. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis allé vous annoncer le témoignage de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait prédestinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Amen. Le frère Paul dit, « Quand nous étions au milieu de vous, je n'ai pas voulu entendre autre chose que Jésus-Christ crucifié. Je n'ai pas voulu entendre plusieurs théories, plusieurs doctrines. La vraie doctrine, la vraie parole que j'ai voulu entendre au milieu de vous, c'est Jésus a été crucifié. » Dans le sacrifice de Jésus, tout est résumé. Parce que quand on dit Jésus a été crucifié, on a envie de se poser la question, mais pourquoi ? Eh bien, l'explication est là. Le péché, la mort devait être tué en Jésus pour que la résurrection vienne. Mais sacrifié, pourquoi lui et pourquoi pas nous ? À cause de l'amour de Dieu. L'amour de Dieu a préféré que son propre fils soit crucifié à la place des autres parce qu'il aimait beaucoup les humains. C'est un amour inexplicable parce qu'on a vu ça nulle part. Mais c'est ça, nous sommes le fruit de cet amour-là. Et c'est ça à cause de cet amour que Christ est crucifié. Et Paul dit, mais tout le reste qu'on peut vous raconter, c'est n'importe quoi. La vraie vérité que vous devez retenir, c'est Jésus-Christ a été crucifié pour nous. À partir de là, nous avons la vie parce qu'après il y a la résurrection. Jésus-Christ étant le premier-né, la pousse, la plante qui sort de la terre, c'est lui. Mais cette plante est appelée à grandir et à porter de fruits que nous sommes. Ça sera notre résurrection et la résurrection de l'univers. Voilà l'enseignement que Paul voulait entendre auprès des Corinthiens. Jésus-Christ crucifié. Parce qu'ils étaient dans plusieurs débats, les dons spirituels. On aime les dons spirituels, on aime tout ça. Mais ils ont perdu leur temps dans des débats secondaires. Paul dit, mais non, l'enseignement le plus important, c'est Jésus crucifié. Parce que c'est dans Jésus crucifié que se trouve la puissance de la résurrection. Et ensuite, dans la résurrection, se trouvent les dons. C'est quand Jésus-Christ est monté au ciel, qu'il a envoyé des dons. Il a dit, restez à Jérusalem, la puissance du Saint-Esprit viendra sur vous. Mais c'est parce qu'il est monté, parce qu'il est ressuscité, qu'il pouvait envoyer cela. Alors, celui qui néglige la logique du sacrifice, il sort de la logique chrétienne. C'est ce que notre frère Paul a dit. Je n'ai pas voulu entendre autre chose que ça. Il y a beaucoup de discours. Il y a beaucoup de parleurs. Mais l'évangile ne marche pas avec les discours. C'est ce que Paul explique là. Il dit, mais je ne suis pas venu avec des grands discours. Vous savez, il y a nos bien-aimés chinois à l'époque où les chrétiens galéraient sérieusement là-bas. Un jour, vous savez, en Chine, il y a beaucoup de montagnes aussi. Et les gens font l'agriculture par étage. C'est-à-dire que moi, j'occupe la montagne de 10 à 15 mètres. Il y a d'autres personnes qui occupent la montagne de 15 à 20 mètres. Tout ça, c'est des champs. Et il y a des chrétiens qui avaient des voisins en dessous. Eux, ils étaient par exemple de 20 à 25 mètres. Les voisins étaient de 15 à 20 mètres. Et les voisins, quand les chrétiens arrosaient leur champ par le tuyau, les voisins, qu'est-ce qu'ils faisaient ? Ils perçaient les trous des chrétiens, les trous de tuyau, pour que l'eau descende dans leur champ à eux. Les chrétiens se sont expliqués avec les voisins régulièrement, mais les voisins continuaient toujours à faire ça. Ils se sont fâchés, mais ils ont compris que ce n'était pas comme ça qu'il fallait faire. Alors, pour éviter que les voisins leur volent continuellement de l'eau, vous savez, quand on te vole, c'est que quelque part, tu n'avais pas prévu. Et ça te fait parfois de plus grosses pertes parce que tu crois que ton champ est arrosé, mais en réalité, l'eau a été volée. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'arroser leur propre champ ? Ils arrosaient le champ de leurs voisins gratuitement. Comme ça,
ça les empêcherait de leur voler à eux leur eau. Alors ça, quand on va expliquer ça, quelqu'un va dire, mais non, ça c'est encourager le mal. Voilà ce qu'on dit dans le monde. Si vous faites ça, vous encouragez le mal. Mais non, c'est la logique du sacrifice. On ne peut sauver que par le sacrifice. Voilà l'enseignement d'aujourd'hui. Le sacrifice. On ne peut sauver que par le sacrifice. Et lorsque ces païens ont constaté qu'on arrosait leurs champs gratuitement, ils ont arrêté de voler l'eau des chrétiens et ils se sont renseignés pour connaître c'est quoi cette foi-là qui enseigne les gens à faire du bien aux gens qui leur font du mal. Et ils se sont convertis eux-mêmes aussi. La vie vient du sacrifice. Souvenez-vous de cela. La vie ne vient pas de la force. La vie ne vient pas. Vous savez, il y a un verset dans Zacharie 4, 6 qui dit « Ce n'est ni par la force ni la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. » Or, l'esprit du Seigneur fonctionne selon l'œuvre du Seigneur. Il dit qu'il viendra glorifier le nom du Seigneur. Et l'œuvre du Seigneur, c'est quoi? C'est ce que notre frère Paul dit, c'est la croix. Je n'ai pas voulu savoir autre chose que Jésus-Christ crucifié. Et nous, nous sommes qui? Nous sommes les disciples du Seigneur, appelés à vivre la même chose que lui. C'est pourquoi il y a un verset où Paul dit, « Je cherche à achever dans ma chair les souffrances de Christ. » Ce n'est pas que Christ n'a pas achevé ses souffrances, non. Paul dit que je dois répéter moi aussi les souffrances de Christ. Chez moi, ce n'est pas encore fini. Voilà, Christ a fini ses souffrances à lui, mais comme nous sommes des disciples de Christ, nous sommes appelés à faire, c'est comme si on recommençait la cassette de Jésus dans notre vie, à nous tous. Nous sommes la cassette, nous sommes le DVD du Seigneur et ça recommence. La vie du Seigneur recommence à nous. Et Paul disait, je veux achever ma part des souffrances de Christ. Et nous tous, nous avons notre part de sacrifice. Non pas que le sacrifice du Seigneur a été insuffisant. Au contraire, son sacrifice a été suffisant, total. Et maintenant, nous devons choisir dans notre volonté de vivre la même vie que lui pour produire des choses par nos sacrifices à nous. Mais qui sont en réalité les sacrifices du Seigneur? Le sacrifice du Seigneur est suffisant. Et d'ailleurs, nous sommes le produit de ces sacrifices, comme on a dit. Mais, étant le produit de ce sacrifice, nous sommes appelés à recommencer les mêmes choses. Chacun pour lui, afin qu'un jour, le Seigneur te dise, voici la couronne qui t'est réservée. Car si nous sommes sauvés gratuitement, la couronne nous est réservée en fonction de notre fidélité. Le salut est gratuit, mais pas la couronne. La couronne, c'est en fonction des sacrifices du Seigneur dont Paul parle quand il dit « Je vais achever les sacrifices du Seigneur en moi ». Voilà, la couronne t'est donnée en fonction de ça. Mais le salut, il est gratuit. Mais il y a des gens qui ont bien compris les choses. Ils ne se contentent pas que du salut, ils veulent aussi la couronne. Parce que la gloire de Dieu, c'est extraordinaire. La logique du sacrifice est tellement importante. Vous savez, dans le livre de Genèse, il y a tout dedans. Donc tout ce que vous voyez dans le Nouveau Testament, dans les autres, Dieu a commencé déjà ça dans Genèse. Mais les gens n'avaient pas le Saint-Esprit pour comprendre les choses. Il fallait que Jésus vienne pour donner le Saint-Esprit et qu'on comprenne les choses. Le fait qu'il n'y ait pas de divorce dans les mariages, c'est déjà dans la Genèse, dans Genèse 2, 24, même juste au début de la Bible. Mais les gens n'avaient pas l'Esprit de Dieu pour supporter cela. Il a fallu que le Seigneur vienne pour que cela devienne possible. Nous lisons dans Genèse au chapitre 22, et tout est dans la Genèse. Le message total de Dieu est dans la Genèse. Genèse 22, au verset 1er. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui deux serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici, mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas dissimulé ton fils, ton unique. » Je préfère cette version qui dit, « Tu ne m'as pas dissimulé ton fils. » Parce que en anglais, là où nous lisons « refuser », c'est « withhold ». Ça veut dire aussi « dissimuler ». Donc, tu n'as pas caché, tu n'as pas éloigné ton fils de moi. Tu n'as pas dissimulé ton fils. Vous savez, Abraham pouvait... Si Dieu dit que tu n'as pas dissimulé, Abraham pouvait faire des stratégies pour éviter ça. Il pouvait faire des stratégies. Pour dire à Dieu, mais bon, ça n'a pas été possible. Hein. Veux-tu que je te sacrifie autre chose? Mais Abraham aimait le Seigneur. Le sacrifice, ce n'est pas juste se sacrifier. Vous savez, dans 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul dit, même si je me faisais tuer pour les gens, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. Ce n'est pas forcément la personne qui souffre le plus ou qui se donne le plus qui est vraiment un vrai sacrifice. Il faut le faire dans l'amour, dans un esprit d'amour, par amour. On peut le faire aussi par orgueil. On doit le faire par amour. Et c'est ça le sacrifice. Le sacrifice, la première notion, c'est l'amour. Abraham aimait Dieu de telle sorte qu'il n'a pas voulu le décevoir. Il a voulu faire la volonté de Dieu. C'est parce qu'il aimait beaucoup Dieu. Les gens qui cherchent à faire la volonté de Dieu pour se sentir bien, ou bien parce qu'ils ont peur de l'enfer, ils finiront par ne pas le faire parce que cette peur-là s'en va de temps à autre. Mais quand on aime, notre cœur est pour la personne. Et le cœur d'Abraham était pour Dieu. Il faisait cela par amour. Deuxièmement, le sacrifice nous apprend la foi. Comment tu peux sacrifier ton fils à quelqu'un que tu ne vois pas? C'est que tu crois vraiment qu'il existe. C'est ça dont il est question concernant le sacrifice d'Abel. Abel et Caïn devaient sacrifier, mais ils n'ont jamais vu Dieu comme leurs parents, Adam et Ève. Alors Caïn a dû calculer, il a dit, mais on ne l'a jamais vu, on a entendu seulement parler de lui. Peut-être que c'est des histoires. Bon, je vais quand même sacrifier par précaution, mais je vais sacrifier des trucs inutiles. Un peu de légumes par-ci, par-là. Comme beaucoup viennent prier Dieu à l'église, au milieu de frères et sœurs, en se disant, bon, faisons-le quand même, quoi. Je suis un chrétien, faisons quand même. Mais il n'y a pas l'amour, il n'y a pas la foi que Dieu est vraiment là, qu'il va nous écouter, qu'il est au milieu de nous. Et Abel a fait le beau sacrifice. Il a pris son plus bel animal, il l'a amené, il l'a sacrifié. Parce que même que Dieu soit invisible, lui le voyait par la foi. Sacrifier ton fils. Donc tu devais avoir la foi que ce Dieu-là existe. Le sacrifice est lié à l'amour. Le sacrifice est lié à la foi. Et le sacrifice est lié à la substitution. C'est-à-dire que quelqu'un prend la place de l'autre. Est-ce que Dieu avait un problème avec Isaac? Non. Dieu avait des relations avec Abraham. Isaac symbolisait celui qui meurt pour l'autre. Isaac devait servir pour la relation entre Dieu et Abraham. Ce n'était pas par rapport à lui-même. Donc, dès le début de la Bible, dès le début de l'histoire humaine, Dieu nous parle du sacrifice à venir de Jésus à travers le sacrifice d'Isaac. Jésus qui devait être sacrifié pour une histoire qui ne concerne pas lui-même, pour une histoire entre Dieu et les humains. Isaac devait être sacrifié parce qu'il prenait ainsi la place d'Abraham. Abraham n'avait pas encore compris ces choses-là. Abraham s'est limité à comprendre que Isaac va être ressuscité certainement puisque c'est le fils de la promesse. Donc même la résurrection était déjà inscrite dans la Genèse sans que les gens comprennent. Mais c'est notre frère Paul qui nous explique ça dans Hébreux 11, que Abraham pensait que Isaac allait ressusciter. Mais la notion de rédemption, de substitution, ce n'était pas encore compris. Isaac n'avait rien à voir avec l'affaire, mais il prenait la place de son père. Et Jésus n'avait rien à voir parce qu'il était sans péché, mais il prenait la place des humains. C'est pourquoi il a crié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Parce que ce n'était pas son problème, mais il a pris ça pour que nous nous soyons sauvés. Le sacrifice, c'est ça. Il y a des gens qui passent leur temps à critiquer les autres, à juger. Dieu te dit, « sacrifie-toi pour eux. » Isaac s'est donné pour par rapport à la relation entre Dieu et son Père. Jésus s'est donné par rapport à la relation entre nous et Dieu. Alors le Seigneur nous dit, nous devons fonctionner selon la même logique. Nous devons nous sacrifier pour nos ennemis. Nous devons nous sacrifier pour les gens qui nous sont opposés. Nous devons nous sacrifier pour les gens que nous connaissons même pas d'ailleurs. Vous savez, Jackie Poulinger, j'aime beaucoup, hein, vous allez souvent m'entendre parler d'elle. Quand elle arrive à Hong Kong, elle, c'est une Anglaise. Un jour, vous savez, dans sa quête de sauver les prostituées et les drogués, vous savez, les drogués appartiennent aux triades, appartiennent à la mafia. Donc, pour que tu quittes la mafia, il faut que ton maître te libère. Parfois, il faut payer de l'argent. Et il y a un drogué qui venait de se convertir. Mais comment il fallait que Jackie rencontre son chef. Et le chef là, un chef de la mafia, donne rendez-vous à minuit. Le frère dit, mais pourquoi? Non, il ne s'était pas encore bien converti. Il hésitait. Parce que sa peur c'était, si je me convertis, je dois quitter mon gang, mais on va se venger sur moi. Jackie dit, mais non, mais je vais rencontrer ton chef. Et on lui donne le rendez-vous à minuit. Le garçon dit, mais on te donne un rendez-vous à minuit, toi une fille, tu vas rencontrer un chef de la mafia à minuit. Pourquoi tu fais ça? Il dit, si je dois mourir, elle a répondu, si je dois mourir, au moins tu sauras que Jésus t'aime par ma mort. Voilà les vrais serviteurs de Dieu. Ce n'est pas une question de blablabla, venir dire je connais ceci, je connais cela. Jacques a dit tout simplement, si je dois mourir, pour que toi tu comprennes vraiment que Jésus t'aime, je vais mourir alors. Une autre fois, une prostituée, pour être libérée de son souteneur, il fallait payer 1 500 $. Elle n'avait que 15 $, mais elle avait un instrument de musique qu'on appelle le hautbois, qui coûte très cher. C'était comme son père, cet hautbois-là, parce qu'elle était une musicienne. Le Saint-Esprit a parlé par un frère qui était converti en prophétie. Mais Jésus a donné sa vie pour nous. Les biens de ce monde passeront. Elle est partie vendre son hautbois pour aller libérer cette prostituée-là de son souteneur. Et quand il a rencontré le souteneur lui dit, « Mais madame, qu'est-ce que vous croyez ?» Vous payez 1 500 $ pour que je laisse cette femme. Mais elle ne va jamais changer. Elle fume l'opium. Elle est prostituée. Elle est habituée à cette vie-là. Jacques lui a expliqué ce que Jésus a fait pour nous. Il a dit, Jésus aussi, il a fait ça pour des gens méchants comme nous. On était des mauvais, perdus, mais il a donné sa vie. Moi aussi, je donne mon hautbois, je paye ces 1500 pour que tu lâches cette femme. Qu'elle change ou pas, c'est ainsi que nous, nous fonctionnons. Nous donnons notre vie pour les autres. Vous savez, elle a attendu plus de quelques minutes le chef de la mafia. Il y en avait plusieurs, celui-là, il ne pouvait plus parler. Il a voulu parler, il ne pouvait plus parler. Il a voulu pleurer. Mais comme chef de mafia, il ne peut pas pleurer. Alors il a dit, allez-vous-en. Elle est partie. La fille était libérée. Elle s'est convertie totalement. Et elle sert le Seigneur. Bien-aimé, les discours, c'est les discours. Le Seigneur a donné sa vie. Et il nous appelle à la même logique. La logique du sacrifice. Offrir, le sacrifice, c'est tu offres ce qui est à toi. Tu t'offres toi-même. Pour qu'il y ait la vie chez quelqu'un d'autre. Pour qu'il y ait le salut chez quelqu'un d'autre. Pour qu'il y ait le salut dans une situation. Comme je vous ai souvent parlé d'elle, ben elle avait 23 ans quand elle est partie à Londres. À Hong Kong, à 40 ans, elle n'était toujours pas mariée. Parce qu'elle se disait, si je me marie, est-ce que mon mari acceptera que je revienne à 2 heures du matin parce que je prêchais à un drogué? Elle attendait que son temps de mission passe. Bien-aimé, je suis en colère quand je vois le christianisme d'aujourd'hui. Je dis, mais non, il n'y a pas la logique de Jésus dans toute cette affaire. Les gens viennent dans l'église comme un hôpital, une banque, chercher des choses. Ils n'ont pas compris ce que Jésus a fait. Zachée n'a pas attendu 20 jours, le même jour. Il a regardé Jésus, il a dit, je donne mes biens aux pauvres. Ce que toi tu fais pour nous, on ne peut pas mesurer ça. Toi le Fils de Dieu, tu viens être crucifié pour nous. Alors ma vie maintenant t'appartient. C'est ça la logique du sacrifice. Donner ce qui est à nous pour qu'il y ait la vie chez l'autre, pour qu'il y ait le salut. Les grands discours, Dieu n'en a pas besoin. Dieu a besoin que tu donnes ta vie. Vous savez, même quand on dit aux gens, arrêtez avec le péché, arrêtez ceci. Mais arrêter avec le péché, c'est quoi? C'est dire que ma vie soit donnée à Dieu pour servir à Dieu. Or, quand ta vie est donnée à Dieu pour servir à Dieu, ça ne peut pas servir au péché en même temps. Ce n'est pas seulement une histoire d'enfer ou machin, truc. C'est une histoire d'offrande. C'est pourquoi notre frère Paul dit dans Romains 12, « Offrez-vous en sacrifice vivant, sain et agréable. » C'est ça l'adoration que Dieu attend de vous. Quand on dit aux gens, mais il faut prier, mais... Prier, c'est quoi? C'est que tu offres ton intelligence. Tu offres ton temps. Dans la prière, tu prends la place de quelqu'un d'autre. Parce qu'on a dit que ce qu'Abraham n'avait peut-être pas saisi, c'est la substitution. Dans le sacrifice, tu prends la place de quelqu'un d'autre. C'est comme si c'est toi qui avais le problème. Quand Jackie, elle vend son hautbois pour sauver cette prostituée. C'est comme si c'est elle qui avait le problème pour vendre quelque chose de très cher pour toi. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est un instrument qu'elle utilise, ça faisait des années. C'était comme un membre de sa famille pour vendre ça. C'était comme si c'était lui, elle, qui avait un problème avec ce souteneur-là. Mais ce n'était pas elle, c'était l'autre. C'est ça le sacrifice. L'apôtre Paul va dire quelque part, frère, si tu es convaincu que manger la viande, c'est bon pour toi, mais si quelqu'un, parce qu'à cause de la loi de Moïse, est gêné par telle viande, ne fais pas ça, c'est un esprit de sacrifice. On n'est pas dans la logique, j'ai raison, tu as tort. C'est la logique, qu'est-ce que je peux faire pour produire la vie chez l'autre? Qu'est-ce que Dieu attend de moi pour qu'il y ait la vie chez l'autre? « Hudson Taylor, il a perdu sa femme et ses deux enfants en mission en Chine. Inconsolable. Mais bien aimé, nous les chrétiens, nous fonctionnons par rapport à l'éternité. Nous savons que ce que nous perdons ici, c'est des choses que nous semons, que nous allons voir ça ressusciter dans l'éternité. C'est la logique du sacrifice. Nous ne perdons rien. C'est un moment, c'est tout. C'est pourquoi même pour le péché, c'est écrit quoi dans 1 Pierre 4:1 ? Celui qui sait souffrir en a fini avec le péché. Donc celui qui comprend la logique de sacrifice, le péché n'aura pas de prise sur lui. Parce qu'il accepte de souffrir, mais au moins que la vérité soit dite. Vous savez, pour prêcher la vérité, c'est un sacrifice. Parce que tu dis des choses sachant que beaucoup vont être opposés à ça. Tu dis des choses sachant que ça va te créer des problèmes. C'est la logique du sacrifice. Il faut que je le dise parce que c'est cette vérité qui sauve. Mon amitié avec le frère ou la sœur ne va pas le sauver ni la sauver. C'est la vérité qui va sauver. Mais en disant la vérité, il y a des conséquences sur moi. La personne ne va plus me dire bonjour. La personne va me critiquer. Mais c'est la vie du chrétien, c'est la logique du sacrifice. C'est tout. Mais vous allez me dire, mais comment avoir cette force? C'est quand tu penses au sacrifice de Jésus. Quand tu penses au sacrifice de Jésus, le Fils de Dieu, moqué, injurié, il a fait des miracles. Mais les gens préféraient Barabbas, un voleur à lui, un brigand plutôt à lui. Quand tu penses à tout ça, quand tu penses à tes propres péchés, tu penses à tes propres péchés, mais que tu te rendes compte que tes péchés ne sont plus comptés, comme David dit dans le psaume 32, tes péchés ne sont plus comptés parce que Jésus les a portés. Tu dis, que ferai-je pour l'Éternel en retour de toutes ses bontés? Moi-même aussi, je donne ma vie. C'est ce que notre frère Paul dit dans toujours l'Épître aux Corinthiens. Il dit, l'amour de Christ nous presse. L'amour de Christ nous presse. Parce que nous pensons que si un est mort pour tous, tous doivent mourir pour celui-là. L'amour de Christ nous presse. Il faut ouvrir les yeux sur l'amour de Jésus et tu comprendras que tout le reste, ça n'a pas de lourdeur, ça n'a pas de puissance. Tout le reste, c'est rien. C'est l'amour de Christ qui nous presse et qui nous amène à offrir notre propre vie aussi pour lui. C'est l'explication que Paul nous donne. L'amour de Christ nous presse. Nous pensons que si un est mort pour tous, tous nous devons mourir pour lui. Voilà le sacrifice. Quand on dit aimez vos ennemis. Nous lisons dans Matthieu 5 la vie que le Seigneur attend de nous. On a parlé de la prière qui est un sacrifice de tous les jours que Dieu attend de nous. Lisons autre chose. Matthieu 5, à partir du verset 5, il est écrit ceci, verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement. Que celui qui dira à son frère « Raca » mérite d'être puni par le Sanhédrin. Et que celui qui lui dira « Insensé » mérite d'être puni par le feu de la Géhenne. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Accorde-toi rapidement avec ton adversaire. pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Je te le dis en vérité, tu ne sortiras pas de là que tu n'aies payé le dernier cadran. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton cœur entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jure pas non plus par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire un mille, fais-en deux avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Voilà ce que le Seigneur nous propose, qui ne peut être obtenu que dans une logique de sacrifice. C'est-à-dire que tu considères que tu n'existes plus, mais tu vis seulement pour Dieu. C'est ça le sacrifice. Tu t'offres toi-même, comme notre frère Paul nous dit dans Romains 12, en offrande à Dieu. Tu dis, Seigneur, prends ma vie maintenant. Et tu es à l'écoute du Saint-Esprit, là où il va t'amener. Le péché qui va te demander d'abandonner, tu abandonnes. Donc, toi, tu t'offres et tu ne calcules plus, c'est le Seigneur qui domine sur toi. Ce n'est pas. Quand on est dans une telle vie, on ne passe pas son temps dans les querelles et les débats. On fait la volonté de Dieu et on est prêt à s'offrir là où le Seigneur nous demande de nous offrir. Même si on a raison, on s'offre quand même parce qu'on est dans l'esprit du sacrifice du Seigneur qui n'a pas répondu alors qu'on l'a mené à la croix. Il n'a pas discuté, il n'a pas polémiqué parce qu'il s'offrait pour le salut de l'humanité. Et c'est dans cette logique que le Seigneur veut que nous évoluions. Aimer nos ennemis, prier pour eux. La prière, tout le temps, c'est pourquoi c'est écrit « prier sans cesse ». Et en priant, on est en train de sacrifier parce que la prière et l'intelligence ne vont toujours pas ensemble. Ça peut parfois aller ensemble, mais en général, non. Nous prenons une situation comme si c'était nous qui avons le problème et nous prions dans ce sens-là. C'est ça le sacrifice que le Seigneur attend de nous. Il est écrit dans 1 Corinthiens 2 que nous avons l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu connaît les profondeurs de Dieu. Alors le Seigneur va mettre en nous ses profondeurs, sa soif à lui pour la Normandie, sa soif à lui pour notre famille, sa soif à lui pour nos voisins. Il va mettre ça en nous, que nous sortions ça par la prière. Et c'est ainsi que la vie et la puissance vont se manifester. C'est le sacrifice qui produit la vie. C'est quand tu offres ce qui est de toi que ça produit la vie ailleurs. Mais quand tu fais comme Caïn, tu prends quelques petits trucs qui ne sont pas importants pour toi, tu offres, il n'y a aucune vie. aucune gloire qui va sortir de cela. Ça ne vient que quand on souffre. Parfois, il faut rester silencieux. Quelqu'un veut t'amener à la dispute. Tu souris et tu restes silencieux. Soyons attentifs à notre vie en famille. C'est là-bas qu'on se forme dans nos foyers. On se forme là en se supportant les uns les autres, en se taisant parfois quand on a raison, en comprenant l'autre aussi. Ah, c'est encore un enfant, ou bien, bon, c'est ma mère, c'est mon père, bon. On fait ce que l'Esprit nous demande de faire. C'est dans nos foyers qu'on doit se former, dans nos familles. Lorsqu'il faut dire la vérité, ton mari ou ta femme veut t'entraîner dans une complicité, dans la fausseté. Tu dis la vérité et tu refuses de participer à cette complicité, dans la fausseté. Bien sûr que ça va t'attirer des ennuis. Ça va t'attirer la froideur. Mais c'est ça le sacrifice pour produire la vie. Dieu veut produire la vie et la résurrection. Mais nous devons comprendre la logique de s'offrir, de se donner en sacrifice. Et nous verrons, comme Paul dit dans Philippiens au chapitre 3, je participe à ses souffrances afin d'expérimenter sa résurrection aussi. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Pas les grands discours, les grandes théories. C'est offrir toi-même. Quelqu'un qui prie est beaucoup plus efficace que quelqu'un qui fait des grands discours. Il sait prendre le problème pour lui et présenter ça à Dieu dans la prière. Et c'est le Seigneur après qui va inspirer les autres phrases, les paroles qu'on sortira plus tard. Mais le Seigneur attend qu'on souffre pour le problème au lieu de combattre humainement, charnellement, pour tout ce qu'on voit autour de nous. Le Seigneur veut qu'on entre dans cette logique-là de sacrifice. On fait des grands discours, bien-aimés. Mais si aujourd'hui des prostituées se convertissaient, qui va les héberger? Des musulmans, qui va les héberger? Parce qu'ils vont être chassés de chez eux. Il faut se préparer au sacrifice, bien-aimés. J'ai rencontré un chrétien pendant qu'on faisait, on était dans le concert, Hier, dans la fête des commerçants du quartier à Saint-Julien, il est venu à la pause nous dire « Mais que Dieu vous bénisse parce que vous osez chanter Jésus clairement alors que la France est athée maintenant et nous sommes le jour de la fête des musulmans et vous, vous chantez clairement comme ça. » Moi, j'ai dit « Mais le Seigneur a fait ça là, pour nous à la croix. Il a été crucifié pour nous. » Nous aussi, nous avons offert notre vie. C'est comme ça. Nous ne pouvons pas reculer. J'aime un chant qui dit « De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule, un plein pardon vous attend. » Je crois en ce que dit ce chant et je crois qu'il y aura beaucoup de convertis, beaucoup de sauvés autour des gens qui croient à la logique du sacrifice de Jésus. Dieu va faire des grandes choses. Il faut s'offrir et on verra la vie que Dieu va produire autour de nous. De la croix, la grâce coule. Bien-aimé, je ne crois même pas en moi, comme il y en a qui de faux enseignants qui veulent nous enseigner à croire en nous. Non, je ne crois pas en moi. Je crois au sacrifice de Jésus. De la croix, la grâce coule. Je crois que je suis une production de ce sacrifice-là. Et nous sommes en train de reproduire. Je crois. Jésus a crié à la croix, tout est accompli par son sacrifice. Il n'est pas ressuscité à ce moment-là. Mais il savait que c'est le sacrifice qui réglait tout. Ensuite, la conséquence, c'est la résurrection. De la croix, la grâce coule comme un fleuve constamment. Oh, venez, venez en foule. Un plein pardon vous attend. Donc le pardon est possible pour les mauvais, les méchants, puisque Jésus-Christ a pris votre place, a pris notre place à la croix. C'est ça la puissance du sacrifice de l'agneau. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est le temps du changement. Dieu t'appelle aujourd'hui à te convertir et à te laisser sauver par lui. Et si tu es chrétien, Dieu t'appelle maintenant à t'offrir réellement. Peut-être que tu faisais de la religion. Peut-être que, bon, tu aimes Jésus, mais tu restais dans le plan. Je fais le peu que je peux faire, mais je fais ma vie. Non. Vous savez comment un drogué a donné la définition du péché? Quand Jacques lui a demandé comment tu comprends le péché, le drogué a dit c'est n'enfer qu'à sa tête. Ça, c'est la vraie définition du péché. C'est ce qu'on apprend dans les enseignements de base, non? Faire sa propre volonté et non celle de Dieu. Mais lui, il a dit ça en termes terre à terre, c'est n'enfer qu'à sa tête. C'est ça. Beaucoup de gens ne le font que. Ils font comme ils veulent. Même parfois, c'est des projets où il y a Dieu dedans, mais c'est toi-même qui fais tes trucs. Ce que Dieu attend, c'est que toi, tu t'offres et lui, il fait sur toi. C'est cela. Alors nous allons demander aux bien-aimés qui veulent se convertir, donner leur vie en sacrifice vivant et si agréable, à se lever et à passer devant. Nous allons prier pour leur conversion au nom de Jésus-Christ.